Bonjour, c'est Marion Calais. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, inspiré aujourd'hui par la nature.
On en vient donc à cette petite révolution qui va faire rêver les phobiques de l'avion, un trajet sans turbulence.
Oui, c'est le groupe Airbus qui est en train de développer une aile intelligente qui sera capable de détecter les turbulences à venir et dans ces cas-là de se plier en son extrémité. Cette technologie permettra également d'économiser jusqu'à 10% de carburant, Arnaud Touche.
Et bien pour les futures ailes de ces avions, Airbus s'est inspiré des oiseaux. Un en particulier, l'albatros.
Comme Airbus qui s'inspire de l'albatros pour penser ses futurs avions. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme, ou quand l'homme cherche à reproduire les particularités de la nature. À quoi ça sert? Quel intérêt? C'est ce que l'on va voir dans cet épisode de Focus, avec plein d'exemples hyper concrets et assez fascinants, il faut le dire, et vous allez nous les détailler. Alain Renaudin, bonjour.
Bonjour Marion Calais.
Fondateur de Biomimexpo, fondateur de l'agence de conseil Newcorp. On va justement commencer par un exemple du quotidien, le Velcro, ça... C'est du biomimétisme.
Oui, ça, c'est une innovation bio-inspirée que chacun peut observer chez soi, ce fameux scratch. Alors, on le doit à un Suisse, pas un Français, qui s'appelait Georges de Mestral. Voilà, maintenant, vous penserez à Georges de Mestral, qui s'est promené un jour en forêt avec son chien. Et des fleurs de bardane se sont accrochées sur le pelage de son chien. C'est une stratégie assez commune chez les plantes que de s'accrocher à leur environnement pour coloniser, finalement, pour se diffuser. Eh bien, Georges de Mestral était chercheur, inventeur, un peu géotrouve-tout. Et donc, ça l'a amusé, ses crochets. Il a pu les voir à l'œil nu. On est en 1943. Et donc... Il a fini par travailler quand même avec une boîte de textile de Lyon. Donc, il y avait quand même un peu de français là-dedans. Et puis, petit à petit, il a essayé de répliquer le système. Parce que le point de départ du biomimétisme, c'est d'être curieux, d'observer le vivant, de se poser des questions. Il a répliqué le système avec cette boîte de textile. Et donc, il a mimé le poil de son chien en textile. Ce qui se rapprochait plus de ça, c'était le velours. Puis, de l'autre côté, il a répliqué les crochets de la fleur de bardane. Velours, crochet, velcro. C'est ça l'origine.
Ah oui, d'accord.
Mais aujourd'hui, en système d'adhésion, le champion du monde, c'est le gecko, ce petit lézard vert qui adhère à tout et qui adhère sans, on l'a longtemps pensé, mais sans effet ventouse. Il n'y a pas de dépôt de matière. Il a une adhésion, on va dire, physico-atomique, on pourrait dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il a sur chacun de ses doigts et sur chaque millimètre carré de ses doigts, des milliers de poils, et chacun de ces poils se subdivise en 100 à 120 spatulae. Donc en fait, c'est une adhésion atomique, d'une certaine manière. Il fait corps avec la matière sur laquelle il se balade, et il arrive à s'adhérer, à se désadhérer avec une espèce d'angle qu'il crée sur son doigt. C'est comme si nous, on mettait le doigt à 180 degrés, on pourrait le faire une seule fois, mais en hurlant. Lui, il le fait tout le temps. Et là, c'est du côté des États-Unis, Stanford et la NASA, il y a un an et demi, ils ont réussi à répliquer cet effet d'adhésion de la patte de gecko, et notamment pour attraper des déchets spatiaux. Et donc ça permet d'attraper des déchets sans dépôt de matière sur l'objet à attraper et sans avoir pensé à l'avance qu'il fallait mettre l'autre côté du velcro sur le truc à attraper.
Et donc ça, c'est déjà utilisé dans l'espace aujourd'hui? Ou ça va l'être?
Ça va l'être. Franchement, c'est déjà très très avancé.
La nature qui inspire donc la NASA, mais aussi la médecine ou le transport ferroviaire, comme le décrivait sur RTL Jérôme Chapuis.
Le moustique qui va gâcher nos nuits cet été à cause du bruit qu'il fait et des piqûres qu'il nous inflige. Mais saviez-vous que ces piqûres sont le plus souvent indolores? Des chercheurs ont donc eu l'idée de copier son dard pour réaliser des aiguilles médicales plus fines et de forme conique. Pour le martin-pêcheur, regardons son bec très aérodynamique qui permet une pénétration rapide dans l'eau. Il a inspiré les dessinateurs du Shinkansen, le TGV japonais, qui a gagné dans l'affaire 15% de consommation et 10% de vitesse.
Alain Renaudin, c'est une tendance, un mouvement de fond. La nature devient de plus en plus aujourd'hui un modèle à imiter.
Oui, il y a de plus en plus d'exemples. Depuis une dizaine d'années, on assiste à un vrai transfert depuis la recherche fondamentale jusqu'à la recherche appliquée. Il y a de plus en plus de mise en action, d'innovation, bio-inspirée, si vous voulez, on peut aussi le dire comme ça, pour une raison assez simple. c'est que on redécouvre que la nature est une forme de cahier des charges. On peut la lire aussi comme ça. On peut s'en émerveiller, la lire comme un cahier des charges pour essayer de résoudre nos problèmes d'énergie, nos problèmes de consommation de matière, nos problèmes d'économie circulaire. Et donc, de plus en plus de groupes industriels, de laboratoires de recherche. On est assez fort sur le sujet en France, hein, et de start-upers ou d'entrepreneurs appliquent des innovations et sortent des innovations bio-inspirées parce que on connaît de mieux en mieux le vivant, même si on le connaît encore très peu. On estime à peu près d'un 1 million d'espèces connues sur 10 ou 15 ou 20 millions d'espèces estimées. C'est toujours compliqué d'estimer un truc qu'on ne connaît pas, mais c'est à peu près ça. Mais on connaît quand même de mieux en mieux le vivant et on est de plus en plus capable de le lire de façon dite fonctionnelle, c'est-à-dire pourquoi c'est comme ça. Pourquoi l'albatros et comment l'albatros fait pour voler longtemps en consommant le moins d'énergie possible. Eh bien, à partir du moment où vous vous posez cette question-là et que vous êtes une compagnie ou un fabricant d'avions comme Airbus, vous dites, tiens, il y a peut-être une bonne idée, il y a peut-être un secret à aller chercher pour l'appliquer à nos activités, pour essayer d'en réduire l'impact.
Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, les ingénieurs de chez Airbus, on en parlait, ou du Shinkansen japonais, ils travaillent avec des biologistes. Le travail en amont, il se fait comment ?
C'est ça qui est génial, c'est que moi j'ai tendance à considérer que le biomimétisme est aussi une passerelle culturelle entre des biologistes, entomologistes, anthropologues, paléontologues, et des ingénieurs, et des managers, et des politiques aussi, pourquoi pas. C'est-à-dire que à partir du moment, je vais vous donner un exemple où vous avez quelqu'un qui vous décrit une aile bleue de papillon morpho. C'est un grand papillon d'Amazonie bleu. Je pense que certains auront l'image mentale en tête. Je peux vous le décrire en tant que biologiste ou entomologiste en vous expliquant quelle taille il fait, comment il se reproduit, de quoi il se nourrit, où il habite, etc. Mais si en plus je vous explique qu'avec 4 strates de surface de lamelles, d'écailles en surface, il a une forme de nanostructure d'ingénierie de surface qui lui permet d'avoir une surface antibactérienne hyper hydrophobe qui lui permet de faire de la coloration structurale, c'est-à-dire que le bleu de l'aile bleue du papillon morpho, c'est pas de la chimie, c'est pas du pigment, et qu'en plus on est en train de découvrir qu'il réussit à faire de l'autorégulation thermique parce qu'à 40 ou 45 degrés il devient iridescent parce que tout d'un coup il fait trop chaud. Et bien à ce moment-là, le biologiste, il a l'oreille de l'ingénieur, parce que l'ingénieur, il a ses problèmes à résoudre. Et tout d'un coup, l'ingénieur lui demande de répéter en lui disant « Mais attends, qu'est-ce que tu viens de dire ? » C'est-à-dire que mon matériau là, qui est exposé à des fortes amplitudes de thermiques et qui donc se déforme et donc qui a un taux d'usure un peu prématuré, si je m'inspire de cette nanostructure de surface de l'aile bleue du papillon morpho, je peux essayer de réduire cette amplitude thermique et donc de déformation. Et donc oui, des chercheurs échangent de plus en plus avec des ingénieurs, managers, designers, etc. Et c'est aussi une des bonnes nouvelles du biomimétisme, c'est que ça crée une forme de langage et d'éléments de rapprochement, une force de rapprochement pour ces différentes populations, parce que c'est très pluridisciplinaire, multi-académique, multisectoriel. Le vivant est génial dans toutes les catégories, si vous voulez. Donc, on peut l'appliquer nous-mêmes dans toutes nos applications.
Oui, les applications sont en effet nombreuses. Illustration d'ailleurs à Rambouillet, dans les Yvelines. La ville expérimente un éclairage urbain d'un nouveau genre développé par une start-up française, Glowist, une lumière bleutée qui est produite naturellement, comme l'expliquait Simon Marseille il y a peu sur RTL.
Pour concevoir cette lumière, rien de plus simple, plonger dans le liquide un petit peu d'oxygène et un bon paquet de bactéries cultivées en laboratoire. Au contact de l'air, elle rayonne, précision de Sandra Ray, fondatrice de Glowy.
C'est une lumière qui est faite à partir de bactéries marines qui vivent chez des poissons, chez des calamars. Elles sont nourries et quand on les agite, voilà, on intègre de l'oxygène et ça permet de créer cette réaction de bioluminescence.
De quoi donner plein d'idées à Véronique Matillon, maire de Rambouillet.
Je rêverais de pouvoir illuminer tous les systèmes d'affichage, les abribus. Si en plus, plus tard, les lampadaires peuvent en bénéficier, ça serait extraordinaire.
Bon, j'imagine que des exemples comme ça, vous en avez plein, Alain Renaudin, mais est-ce que ça peut concerner tous les secteurs ? Est-ce que, par exemple, l'architecture, l'industrie ou l'agriculture peuvent s'emparer aussi de ces innovations ? inspirés par la nature.
Oui, alors il y a de plus en plus d'exemples. Je me permets de vous dire de venir à Bionime Expo pour rencontrer tout cet écosystème. Blague à part, oui, dans les domaines que vous avez cités, vous prenez des cabinets d'architectes, je ne sais pas si je peux les citer, mais comme Béchu par exemple et Associés, ou un autre comme In Situ Architecture, qui s'inspire du vivant pour faire des choses. Par exemple, la tour D2 à La Défense, pour les Parisiens qui nous écoutent, ils doivent la connaître. Quand vous commencez le boulevard circulaire, un peu plus loin à gauche, j'avais une tour avec une forme d'exosquelette extérieur en croisillon, en losange. Ben ça, c'est inspiré des structures osseuses. Ça permet d'économiser 40% de béton pour faire une structure porteuse. Vous avez un architecte qui s'appelle Nicolas Vernutello, qui s'inspire d'une innovation développée par Mike Pierce il y a une vingtaine d'années au Zimbabwe, qui s'inspire des termitières pour faire de l'autoventilation passive, c'est-à-dire pour éviter des systèmes de clim. C'est vrai que la clim, c'est la bombe énergétique urbaine de demain. Eh bien, vous avez tout un tas d'organismes, et notamment les termites, qui ventilent leur habitat, tout simplement parce qu'elles ont besoin de maintenir une température entre 20 et 25 degrés, même s'il fait 50 degrés dehors. Et donc ça, ça vous permet de réduire considérablement la consommation énergétique. Vous avez des substituts aux pesticides qui s'inspirent des phéromones et de la dispersion de phéromones. Ça, c'est une autre start-up qui s'appelle M2i, qui s'est inspirée de la stratégie de communication des insectes entre eux. L'insecte mâle repère la femelle à l'odeur, à la phéromone. C'est comme ça. C'est une signature olfactive, odorante, et singulière. C'est comme un code Wi-Fi, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à une lettre près ou à un chiffre près, c'est ultra singulier. Eh bien, si vous reproduisez cette phéromone femelle, comme le fait M2i, et que vous l'encapsulez à haute dose, et que vous la dispersez au-dessus de cultures, ou dans des forêts, ou que vous l'utilisez dans votre jardin, eh bien, vous allez envoyer un certain nombre de signaux olfactifs qui vont indiquer de la présence d'insectes femelles. D'accord ? Donc, l'insecte mâle qui arrive sur zone, il va sentir de la femelle à tous les étages. Il va être probablement très excité par tout ça. Il y en aura probablement des femelles, mais peut-être une pour un million d'odeurs. Et donc, c'est ce qui s'appelle de la confusion sexuelle. C'est un leurre, si vous voulez. Ce qui fait que l'insecte mâle, ben, il ne va pas trouver l'insecte femelle. Ils ne vont pas se reproduire. Donc, il n'y aura pas de larves qui sont les principaux ravageurs des cultures. D'une certaine manière, il va passer son chemin. Donc, c'est une forme de contrôle des naissances, en quelque sorte. Ça ne tue pas l'animal. Ça ne tue pas les voisins non plus, parce que c'est une signature extrêmement singulière. Et ça, c'est un substitut à 100% aux pesticides. Ça marche déjà. Cette entreprise fait déjà du chiffre d'affaires et c'est déjà appliqué dans bon nombre de pays.
Donc, en gros, si je vous suis, c'est tout bénef, hein, Alain Renaudin, de s'inspirer de la nature. Est-ce que ce qui sous-tend aussi le recours au biomimétisme aujourd'hui, c'est aussi qu'on y voit la perspective de faire des économies d'énergie, notamment ?
Dans la très 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 grande majorité des cas, les entreprises s'intéressent à ça, s'y intéressent par une forme de binôme entre les équipes R&D, recherche et développement, et les équipes dites RSE ou développement durable, si vous voulez. Et donc, la motivation, c'est créer ce que moi j'appelle de la performance globale, c'est-à-dire de la performance pour moi, ma structure, qu'elle soit privée ou publique, et le reste du vivant et la planète. C'est-à-dire comment aujourd'hui innover pour être bénéfique à toutes ces échelles-là. Faire de l'innovation anthropocentrée uniquement pour l'homme au détriment de la planète n'a aucun sens. C'est une innovation qui est une voie sans issue. Et donc, les entreprises s'intéressent à ça, vous l'avez dit, oui, pour parfois réduire la consommation énergétique. Le vivant est extraordinairement économe en énergie. Une raison assez simple, c'est que souvent, il produit son énergie et il la porte. Nous, on consomme beaucoup d'énergie parce que c'est facile, ça ne nous demande pas d'effort. Pourquoi est-ce que l'albatros bloque ses ailes pour voler 10 ou 11 000 km d'une seule traite sans quasiment battre des ailes ? Parce que c'est trop fatigant. Et donc, économiser de l'énergie, c'est une grande motivation des entreprises qui s'intéressent à ça. Économiser de la matière première, du matériau. Par exemple, le vivant fabrique tous ses matériaux d'abord à température ambiante et à pression ambiante, donc de manière beaucoup moins énergivore. Une diatomée, qui est un micro-organisme unicellulaire marin, fabrique une coque de verre à température ambiante et dans l'eau. Là où nous, on a besoin de hauts fourneaux à 1500 degrés. Eh bien, c'est aussi une source d'inspiration formidable pour fabriquer des choses en consommant moins d'énergie et en consommant moins de ressources. Et pour terminer, en se sourçant localement, parce que le vivant, il fonctionne à l'économie circulaire et à l'économie locale. C'est le roi de la réindustrialisation locale, le vivant. C'est-à-dire qu'on cherche toujours la solution de facilité dans le vivant, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, on se fournit localement et donc Vous avez des oiseaux qui vont fabriquer des nids en Asie, en Afrique ou en Amérique. Ils vont peut-être fabriquer des nids qui vont se ressembler, mais pas avec les mêmes matières premières, parce que l'oiseau, il va pas faire 10 000 km pour aller chercher une brindille pour fabriquer son nid, si vous voulez. Et donc, se sourcer localement, c'est aussi une des grandes leçons du cahier des charges du vivant. Et en réalité, ça change beaucoup de choses, parce qu'à partir du moment où vous dépendez de votre biotope, de votre écosystème de proximité, eh bien, vous en prenez soin. Vous souciez de la capacité de votre écosystème de proximité lui-même à se régénérer, à respirer. Et donc le vivant se source, hein, le vivant aussi ponctionne, mais en donnant la capacité à sa source d'approvisionnement de se renouveler.
Alors, il y a quand même une question assez déterminante, Alain Renaudin. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure de la sixième extinction de masse et des atteintes nombreuses à la biodiversité, est-ce qu'il n'y a pas encore plus urgence à s'inspirer de la nature? Est-ce qu'on ne menace pas finalement nous-mêmes notre propre avenir en se privant peut-être de l'observation demain de certaines espèces?
Complètement, on est même en train de brûler la bibliothèque, si vous voulez. Non seulement il y a urgence à préserver, il suffit plus aujourd'hui de protéger, mais il faut préserver et restaurer et régénérer la biodiversité qui nous entoure. Mais surtout, il faut prendre conscience que c'est probablement l'assurance-vie de l'humanité, cette biodiversité. C'est-à-dire que la biodiversité est probablement la solution au problème climat. Les deux principales et premières leçons du biomimétisme, c'est une leçon temporelle et une leçon spatiale. La leçon temporelle, c'est qu'on est une espèce jeune. On est arrivé il n'y a pas très longtemps dans la classe. Et donc, plutôt que de donner des leçons à tout le monde, on ferait mieux d'écouter les anciens et les aînés qui sont là depuis longtemps. Ils ont plein de choses vachement intéressantes à nous dire. Et en réalité, le vivant est une boîte qui fait de l'innovation depuis 3,8 milliards d'années. Nous, on n'a pas une seule boîte qui a un million d'années. Ça, c'est l'échelle spatiale. L'échelle temporelle, c'est qu'on est là depuis 250 000, 300 000 ans pour nous, en tant que Homo sapiens sapiens, l'homme sage, intelligent, évolué, etc. Et donc, écoutons tout ce qui nous entoure. Moi, je ne crois pas au grand soir où tout d'un coup, une innovation changerait le monde, etc. Je crois beaucoup plus à une forme de confluence, de faisceau d'innovation à plein d'échelles, toutes intéressantes, combinées les unes avec les autres. Voilà. Donc, c'est la contribution que peut apporter le biomimétisme. C'est aussi assez enthousiasmant parce que c'est une approche qui peut aussi être considéré comme philosophique, voire spirituel, hein, parce que parfois c'est très énigmatique. Pourquoi est-ce que le vivant s'est organisé comme ça? Qui lui a dit d'eux? Parfois, ça pose des questions. Et en tout cas, moi, j'ai tendance à considérer que c'est une source d'innovation technologique, mais c'est aussi, pour ainsi dire, une deep tech culturelle. C'est-à-dire qu'en fait, ça change notre regard sur le monde qui nous entoure. Si Franck Zahle, demain, un ancien chercheur du CNRS qui a créé Marina, vous explique qu'un ver marin est capable de vous sauver la vie parce qu'il a une hémoglobine extracellulaire universelle compatible avec tous nos rhésus humains, qui est super oxygénée et qui va aider des greffes de peau de grands brûlés, eh bien vous allez prendre conscience que ce ver marin que vous avez largement ignoré jusqu'à maintenant, qui ressemble à pas grand-chose, qui n'est même pas beau, eh bien ce ver marin peut vous sauver la vie. Eh bien le biomimétisme, de façon culturelle, ça change votre regard. Vous ne promènerez plus à marée basse en Bretagne sans vous demander ce qu'il y a sous ce petit serpentin de sable. Et ça fait du bien de changer notre regard et de nous remettre un petit peu au cœur de cet écosystème et pas au-dessus ou à côté.
La nature est donc un atout et vous l'avez merveilleusement prouvé dans cet épisode de Focus. Merci Alain Renaudin, fondateur de Biomime Expo, de nous avoir accompagnés dans cet épisode du podcast de la rédaction de RTL. Focus que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.